La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je remercie mon frère pour la lecture de ce texte. En préparant ce message, j'ai pensé en particulier à ceux qui d'entre nous ont reçu le baptême il y a moins de 10 ans et auxquels nous offrirons tout à l'heure un repas spécial. Le programme de l'après-midi a aussi été taillé sur mesure pour eux, le thème étant « Marcher avec Dieu ». Dans la vie, tout est une question d'équilibre, de tempérance et de bonne mesure, jusque dans l'intimité du couple. Tout est une question d'équilibre. La vie elle-même dépend d'un juste milieu entre les extrêmes. Ce que les médecins appellent l'homéostasie n'est autre chose qu'un mécanisme interne de régulation de ce qu'on appelle les constantes vitales entre deux extrêmes. Ces constantes vitales sont des paramètres physiologiques comme la température du corps. Et là, je ne vous apprends rien. Le corps, normalement, chauffe à 37 degrés. Si vous passez en dessous de 35, vous êtes en hypothermie. Il y a un risque vital. Si vous passez au-dessus de 40, vous êtes en hyperthermie. Là aussi, risque vital. La pression artérielle, normalement, elle est de 12,8. 12 pour la pression dite systolique et 8 pour la diastolique. Mais bon, on va dire la pression haute et la pression basse. On va parler de hypotension à partir de 9,6 et d'hypertension à partir de 14,9. Vous voyez, là aussi, il ne faut pas dépasser les limites physiologiques. Parce que la vie, celle que Dieu nous a donnée, se situe dans un équilibre permanent entre le too much, le trop, et le too little, le pas assez. Et cela se vérifie aussi au niveau comportemental, dans le domaine de la conduite personnelle. Trop manger, c'est mettre sa santé en jeu. On appelle ça l'hyperphagie. Certains vont jusqu'au binge eating. C'est un terme qu'utilisent aujourd'hui les spécialistes de l'addiction comportementale. Binge eating, manger d'énormes quantités de nourriture jusqu'à ne plus pouvoir tout simplement s'arrêter. Au contraire, ne pas manger assez, c'est tout aussi dangereux pour la santé. On appelle ça, dans certains pays, hélas, la disette ou la famine, et dans les nôtres, les pays d'abondance, l'anorexie, souvent on précise mentale ou nerveuse. Il y a aussi le problème du sommeil. Vous savez quelque chose certainement. Souvent, soit on dort pas assez, ça se dit insomnie, on n'arrive pas à s'endormir, on se réveille la nuit ou trop tôt le matin. Ou alors, et j'en connais aussi qui ont ce problème-là, on dort trop. Et ça, c'est l'hypersomnie. Et croyez-moi, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Quand on a constamment sommeil et envie de dormir. Et ça crée un état de fatigue, de grande fatigue permanente. L'eau est excellente, l'eau, le véhicule de la vie, l'eau indispensable, mais quand on boit trop d'eau, eh bien, on tombe dans la potomanie, avec des risques énormes d'œdème cérébral, conduisant au coma puis au décès. Quand on dépasse à peu près 8, 9, 10 litres par jour. Quand on ne boit pas assez, on se déshydrate. Les organes se déshydratent, le cœur souffre. De même que les reins. Et là aussi, on risque gros. Trop de soleil. Le soleil, pourtant, c'est excellent. En ce moment, on aimerait en avoir un peu plus. Mais vous savez, aujourd'hui, on nous met plutôt en garde contre le too much en matière de soleil que le too little. Parce que trop de soleil, certes, peut provoquer des insolations. Et moi, j'en ai subi une dans ma vie. Je peux vous dire, c'est pas drôle. On m'a demandé de balayer sous un soleil de plomb une énorme cour d'usine. Eh ben, j'avais pas de chapeau, hélas. J'ai même pas pensé à m'en improviser un avec une serviette, avec un bout de carton, que sais-je. Et deux heures après, j'étais KO. La tête s'est mise à tourner. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? On m'a allongé, j'ai vomi. Ben oui, insolation. Puis après, vous n'êtes pas bien pendant plusieurs jours, hein. Bon, plus classiquement, il y a les coups de soleil, les brûlures de la peau et les cancers que ça peut occasionner. Ça, c'est le trop de soleil, surtout si les rayons sont mal filtrés. Le pas assez de soleil, ça aussi, c'est pas top. Pas assez de soleil, ben, on va être carencé, surtout en vitamine. Il y a des connaisseurs ici. La vitaminose D, exactement. Du coup, aujourd'hui, on conseille volontiers à tous les petits Européens, les petits Blancs que nous sommes, et les autres, qui ne sont pas blancs, et qui habitent l'Europe, qui sont aussi européens, eh bien, de prendre la vitamine D, de prendre donc des compléments de vitamine. Il y a le problème du travail. Eh bien, là aussi, trop de travail, eh bien, c'est un syndrome terrible qu'on appelle le syndrome du bourreau de travail. En anglicisme, on dit « workaholisme », vous avez déjà entendu ça ? Et mélange entre to work, travailler, et alcoolisme. Dépendance au travail, comme on peut dépendre de l'alcool. Ça, c'est le trop travailler. Et le pas assez, dans la Bible, on dit la paresse. Hein. On peut parler de procrastination, remettre toujours au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. Les spécialistes vont parler d'abolie, absence de volonté. Pas la motivation, ça me barbe. Je préfère rester au lit, je vais encore sécher un cours, ou encore rester chez moi, tant pis si je me fais virer. Ça, c'est un gros problème aussi. Vous voyez, pas simple de garder l'équilibre. Et enfin, bon, allez, l'activité physique, on nous recommande l'activité physique, mais là aussi, il y a de plus en plus de problèmes, soit dans un sens, soit dans l'autre. Le pas assez, hein, généralement, c'est ce qui est mis en relief, c'est vrai. Le sédentarisme, quand on n'est pas assez actif, on est sédentaire. Alors, se développent différentes maladies dites de civilisation, l'obésité, le stress, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais, détrompez-vous, si vous faites trop de sport, au-delà, on a vérifié ça, de 3 séances vraiment très intensives par semaine, vous risquez là aussi des maladies cardiovasculaires. C'est très sérieux. Ça abîme les organes, ça les stresse. Et c'est pas bon, il faut trouver là aussi le juste milieu. Ah, c'est ça la notion de tempérance. Pour ça, le fameux programme New Start, hein, qui vous rappelle qu'il y a tous ces facteurs de santé qui sont vraiment importants pour la garder, la conserver ou la retrouver quand on est malade, eh bien, doivent s'équilibrer avec la tempérance, toujours la tempérance. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Il faut aussi là trouver un équilibre, et je vais y revenir un peu plus en détail dans un instant. Parce que d'un côté, j'amorce la question, il peut y avoir trop de ferveur. On dit, ah oui, ben oui, ça peut exister, trop de ferveur, j'entends par là de crédulité, d'exaltation, qui conduit à ce qu'on appelle le fanatisme. Le sensationnalisme, hein, il faut que ça se voit, que ça s'entende, que ce soit évident que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ou que vous êtes guéri. Bref, l'émotionnalisme, la forme chaude du too much. Et puis, une forme un peu plus froide, plus réfléchie du too much, c'est trop de rigueur. Pas trop de ferveur, d'exaltation, d'inspiration, mais trop de rigueur, d'exigence. Et là, on va parler de rigorisme. de limites strictes, de rites que l'on répète régulièrement sans y mettre le sens et sans y donner du cœur. C'est la forme froide du too much. Et puis il y a le too little dans le domaine spirituel, le pas assez. Le pas assez, pas assez de rigueur, pas assez de foi, de confiance en Dieu, pas assez de volonté, de force morale. Alors là aussi on craque, là aussi on est en difficulté. On va parler de libéralisme, c'est-à-dire donc du coup, on prend des distances par rapport au texte biblique, par rapport au commandement de Dieu, on relativise, on peut même tomber dans l'indifférence. Il y a aussi un nom pour cela, l'indifférentisme. Certains cachent ce positionnement derrière un terme très, très agréable de progressisme. Je suis progressiste. De quelle manière ? C'est bien le progrès, mais de quelle manière tu progresses dans ta vie ? En reculant ou en avançant ? Le texte que nous a lu notre frère Bernard commence par ce verset, verset 9. Noé était un homme juste, juste, et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et comment marchait-il ? Autrement dit, comment vivait-il ? Comment se conduisait-il ? Quelle était sa manière à lui de marcher avec Dieu ? Scoop. Le jeudi 7 juillet 2016, des créationnistes américains ont inauguré une nouvelle attraction dans l'État du Kentucky. Une arche de Noé de 155 mètres de long. Alors ce jour-là, muni d'une énorme paire de ciseaux, un groupe de chrétiens américains inaugurait leur nouvelle attraction, une arche de Noé, sur mesure, grandeur nature. Ces chrétiens font partie d'un mouvement qui a pour intitulé « Answers in Genesis », les réponses de la Genèse, si vous voulez, en français. Et ils défendent, bien sûr, la thèse du créationnisme, la création du monde, par un Dieu souverain. Et donc, ils ont eu pour projet de construire cette arche, magnifique, hein, qu'ils ont appelée l'Ark Encounter, donc la découverte de l'arche, et cela dans l'État du Kentucky. Ça leur a quand même coûté un petit pactole, hein, apparemment 100 millions de dollars. Mais bon, ça valait la peine. Et la date du 7 juillet n'a pas été choisie au hasard. 7 juillet 2016, il y a trois ans, un peu plus de trois ans. Elle correspond au verset 7 du chapitre 7 de la Bible, qui narre l'entrée de Noé et de ses proches dans ce navire demandé par Dieu afin de sauver cette famille fidèle, intègre, du déluge. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a vraiment voulu ici refaire l'arche de Noé, telle que Noé, avec certainement l'aide de ses fils et d'autres membres de la famille, dont Methuselah, père de Noé, et grand-père aussi de Noé. Donc ces gens-là étaient là pour aider, et il a fallu construire l'arche selon les indications de Dieu lui-même. Alors, quelles sont ces indications ? Et là, on comprendra un petit peu mieux de quelle manière Noé marchait avec Dieu. Noé a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'en a pas fait plus, ni moins. Il n'est pas tombé dans le « too much », ni dans le « too little ». Alors, Dieu lui a dit quoi ? Il a dit, tu choisis du bois de gopher. Qu'est-ce que ce bois de gopher ? C'est un nom, il faut le savoir, qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Gopher, ou Gopher, comme vous voulez. C'est un, ce qu'on appelle ça un apax. Ça apparaît une seule fois. Fais-toi une arche de bois de Gopher. Alors, on a avancé différentes hypothèses. La traduction grecque de l'Ancien Testament propose bois écari, un bois travaillé. Bon, hypothèse qui a été reprise par la traduction en latin, dite la Vulgate. Vous avez les commentaires en araméen de l'Ancien Testament qui proposent bois de cèdre. Vous avez une version en syriaque de l'Ancien Testament qui propose bois de buis, du buis. Okay. On a proposé du cyprès, le cyprès, l'ébène, le pin, le sapin, le teck. Bref. Il semblerait en tout cas que ce bois de Gopher était un bois local, de très grande qualité, mais qui avait surtout ceci, c'est qu'il était noueux, solide, hein, hydrofugé par quoi ? Par la résine. C'était donc un bois résineux et résistant. Résistant à la torsion, voilà, et puis surtout à l'imprégnation par l'eau. Alors là, il y a une interprétation intéressante qui est proposé et qui veut qu'il s'agisse en fait d'une erreur par un scribe qui se serait reproduite donc d'écriture en réécriture du texte. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire « Gopher », le scribe a écrit « Gopher ». Et c'est vrai que les deux lettres se ressemblent énormément en hébreu. Et il faut savoir que « Gopher », ça signifie proprement eh bien, le bitume. Donc, le gopher serait du bitume ou un bois bitumineux, c'est-à-dire résineux. Bref, on va se contenter du bois de gopher. Mais Noé a respecté les consignes de Dieu. Lui savait quelles étaient exactement, quels étaient les arbres à abattre pour avoir une arche selon les plans de Dieu. Ensuite, image suivante. Là aussi, vous pouvez constater... Non, juste avant, voilà, j'en avais deux sur l'arche. Oui, les dimensions de l'arche, elles sont respectées. Environ 150 mètres de long, 300 coudées. Environ 25 mètres de large, 50 coudées. Et environ 15 mètres de haut, 30 coudées. Ça a bien été respecté ici. On a trois étages, 1, 2, 3, vous pouvez même les observer la ligne des étages sur l'extérieur, vous les voyez ? Premier en dessous de la porte, deuxième au-dessus de la porte, et troisième au sommet du bâtiment. On peut vraiment parler d'un bâtiment. Croyez-moi, ça résiste au flot. Hein. Quand vous voyez la forme de l'engin, vous dites ça peut être secoué. C'est pas du tout facile à renverser, ça je peux vous le dire. Pas du tout facile à renverser, ça peut tanguer dans tous les sens, mais ça ne se retourne pas. Et Dieu a dit précisément qu'il faudra y mettre une seule porte pour ne pas fragiliser l'ensemble et une seule fenêtre. Ce qu'a fait Noé. Une porte, pas très grande, bon, suffisamment quand même pour que les animaux puissent y passer, les plus grands, mais taille minimale. Idem pour la fenêtre, qui n'est pas très grande non plus, par rapport à la taille du bateau, évidemment. Et ça, Noé a dû le respecter. Il a dû respecter les dimensions du bateau pour qu'il soit solide, qu'il résiste au déluge. Il a dû respecter les indications concernant le nombre de portes, une seule, sa dimension, le nombre de fenêtres, une seule, sa dimension. Il ne respectait pas ça, il se mettait en danger, il mettait sa famille en danger. Et donc la survie de l'humanité et votre présence aujourd'hui dans ce lieu. Oh, quand même, nous sommes des enfants de Noé. Et en plus, Dieu lui a dit, ça ne suffit pas de mettre d'un bois résineux, solide, noueux, mais il faut aussi mettre encore du bitume à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Alors, comment on trouve le bitume ? C'est là, c'est naturel, voilà, un gisement naturel de bitume. Parce qu'on dit, il a cherché le goudron, qu'on appelle la poix avec un X, hein, enfin avec un S, comme les pois chiches. Là, c'est avec un X, la poix, le bitume ou le goudron, ça se rejoint. Voilà, c'est quelque chose d'épais et de totalement hydrofuge. Eh bien, il a fallu qu'ils mettent ça aussi. Et là, vous comprenez ce que veut dire marcher avec Dieu. C'est le prendre au sérieux et faire ce qu'il nous dit. Ni plus, ni moins. Il ne s'est pas dit, ah ben une fenêtre, ça ne suffira pas hein, pour éclairer l'intérieur de l'arche. Moi, je vais en faire une petite dizaine là-haut, c'est quand même plus sympa. Surtout que, bon, moi j'aime bien l'éclairage naturel. Non, une fenêtre. Les portes, pourquoi mettre qu'une porte d'un côté, c'est plus facile, on peut aussi accéder de l'autre. Deux portes. Non, c'était pas bon. Ou trois ou quatre. Non, c'était pas bon. C'est le trop. Par contre, il aurait pu se dire, oh, bah, une porte, ça risque de fragiliser. Je ne mets pas de porte, la fenêtre suffira, on rentrera par la fenêtre finalement. Oui, mais réfléchis, Noé, il y a des animaux qui doivent passer par là aussi. Donc si tu te contentes que de la fenêtre, parce que tu veux solidifier la carlingue, ouais, eh bien, ça ne marchera pas. Donc respecte ce qu'on t'a donné, les instructions que tu as reçues. Et c'est ce qu'il a fait, Noé. Pas besoin qu'on insiste là-dessus. Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a marché avec Dieu. Il lui a dit, ça marche. C'est comme ça que tu veux l'arche? Ça marche. D'accord. Il a construit donc cet énorme bâtiment flottant par lequel lui, sa famille ont été sauvés et l'humanité entière dont nous sommes. Vous savez, il nous est facile, à nous humains, d'aller dans les excès. D'ailleurs, l'ennemi nous pousse souvent dans les excès, dans un sens ou dans l'autre. En faire trop, plus que ce que Dieu nous demande, ou pas assez. Dans le concept minimaliste, le simplissimo. Mais parfois, c'est là aussi prendre de gros risques pour sa vie éternel. Au temps de Jésus, il y avait aussi différentes postures par rapport à la parole de Dieu. Noé avait choisi la bonne, Noé. Je fais ce que Dieu me dit. Ce que Dieu me dit est sobre. La parole de Dieu est sobre. Et en même temps, elle est complète. Elle est riche. Tout en étant sobre, elle est riche. Il y a tout ce qu'il faut. Tout. Rien ne manque. À l'époque de Jésus, on avait déjà déformé la parole de Dieu et Jésus est venu pour rétablir les choses. Jésus a marché avec Dieu. Et à l'époque de Jésus, eh bien, il y avait différents partis religieux. Il y avait ceux qui étaient trop à droite, qui marchaient à droite du chemin et qui s'en écartaient, et les autres qui étaient trop à gauche, qui marchaient vers la gauche et qui s'écartaient du chemin. Alors, trop à droite, bon, c'est un exemple, hein, je veux dire, scène tirée d'un film sur Jésus. Mais trop à droite, il y avait, dans cette forme que j'ai caractérisée de chaude, d'exaltée, il y avait les zélotes et les sicaires. Vous avez vu quelque chose, Simon le zélote? Eh bien, eux, ils avaient les Écritures, donc la parole de Dieu, les instructions divines, plus... Parce que ça manque. Alors selon eux, le combat militaire, l'usage des armes, la revendication, la résistance par tous les moyens, le patriotisme exacerbé et violent. C'est comme ça qu'ils voulaient la Bible. C'est comme ça qu'ils voulaient la parole de Dieu. Musclé. Donc, les Écritures, oui, mais... Allez, l'activisme. On va pas rester là les bras croisés devant l'ennemi. Alors à l'époque, ils ne plaçaient pas des bombes, mais des embuscades. Alors ça, aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on va rester dans les milieux chrétiens, mais ça peut s'étendre à tous les milieux religieux, ça s'insère sous la forme de l'agitation, du bruit, de l'excitation sociale, parfois d'actions politiques mal avisées et maladroites, de l'agressivité verbale vis-à-vis des autres, ceux qui ne sont pas comme nous, et même si c'est parfois sur de bonnes bases, hein, avec raison, c'est les cultes et les discours, je vais les caractériser d'enfiévrés. Et les attitudes enfiévrées dans la société, au milieu des autres. Vous avez toujours trop à droite, donc ceux qui en sont dans le too much, vous avez aussi les pharisiens. Bon, on peut imaginer qu'il y en a là aussi sur l'écran. Alors eux, ils ont l'écriture, mais là aussi ça ne leur suffit pas. Non, ils n'ont pas ajouté les armes. Ils n'ont pas ajouté les armes, mais ils ont ajouté la tradition orale. La fameuse loi orale qu'on retrouve aujourd'hui, je ne vais blesser personne, mais dans le Talmud. Et on y trouve la Mishnah et son commentaire qu'est la Gemara. Ok, avec les 613 traités, ainsi de suite. Alors, non, là, ça ne suffit pas, il faut quand même ajouter quelque chose pour faire mieux que. Et Jésus, d'ailleurs, à bien des égards, s'est opposé à cette tradition orale, à ce qui se fait pas le samedi, comment, voilà. Mais pourquoi tu ne dis pas à tes disciples de ne pas cueillir du grain? Pourquoi tu guéris ce jour-là, etc. Voilà, on s'était basé sur la tradition orale. Donc là, c'est une forme froide d'excès, vous comprenez? On est dans un conservatisme qui est étroit, qui est tatillon, on est rigoriste. On multiplie les règles, on multiplie aussi dans certains milieux les prophéties, parce qu'il n'y en a pas assez dans la Bible. Alors on va ajouter des prophéties. Alors c'est vrai qu'il y a des événements significatifs qui ont certainement eu des conséquences énormes sur la marche des siècles. Le 11 septembre 2001, oui, certes. Mais de là à trouver une prophétie pour dire « Ah ben le 11 septembre 2001, c'est dans la Bible, hein. Je vais vous prouver. » Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Puis d'autres, hein, d'autres événements marquants, on peut en trouver. Dans le monde politique, géostratégique, etc., il se passe des choses. Et parfois, là aussi, on est dans le « too much », on veut encore plus de prophéties, alors qu'on n'a peut-être pas compris, très bien compris, celles qui sont là, qui sont déjà juste ce qu'il faut. Il n'y a rien qui manque, et il n'y a rien en trop. C'est ça qu'il faut comprendre avec la parole de Dieu. Vous avez les Esséniens aussi, alors les Esséniens, je passe, mais bon, ça aussi, c'était dans un groupe qui faisait dans le « too much », dans le « trop ». Ils avaient les Écritures, mais eux n'ajoutaient pas les armes ou une tradition quelconque, mais ils y ajoutaient l'ascétisme. Alors c'est quoi ça? Pauvreté volontaire, éloignement des villes, communautarisme, on se retrouve entre nous, un petit groupe, surtout pas s'ouvrir, austérité pour que d'autres n'aient pas envie de nous rejoindre, célibat, jusque-là, pas les plaisirs du couple, rejet du temple et de ses services, donc ça c'est Babylone, le temple et ses services, vous voyez, les églises officielles, c'est Babylone, ils sont vendus au diable. Et qu'est-ce qu'il y a encore chez eux? Les bains rituels quotidiens. Alors on va rajouter des choses, on rajoute des choses, parfois on rebaptise sur d'autres bases. Ah, tu as eu ce baptême-là dans telle église, c'est pas bon, on va te rebaptiser. Et c'est ce que faisaient les Esséniens, hein, les bains rituels quotidiens. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Torah? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans les Écritures? Ah. Vous avez aussi les autres qui étaient trop à gauche. Alors ceux qui étaient trop à gauche, ce n'étaient pas les Zélotes, ce n'étaient pas les Pharisiens, ce n'étaient pas les Esséniens, mais c'était, qui est-ce qui manque à l'appel? Les Sadducéens et les Hérodiens. Les Sadducéens, c'était des prêtres, la plupart issus de familles sacerdotales, hein, familles de prêtres, et les Hérodiens, c'était des Sadducéens proches du roi Hérode. Eh bien, ceux-là, ils n'avaient rien en plus, mais ils avaient des choses en moins parce qu'ils voulaient rester dans les bons papiers des souverains. Eh bien, ils retiraient des choses, ça les arrangeait d'être en moins, là, pour bien passer dans la société, pour bien passer auprès des grands, pour bien passer en politique, on fait du moins. Est-ce qu'il y a besoin encore de garder le sabbat? Est-ce qu'il y a besoin encore de ceci, cela? Oh, on ne va pas s'embarrasser de toutes ces choses-là. Alors eux, ils ont retiré des Écritures, les livres de sagesse, Job, Psaume, Proverbe, etc. Et ils ont retiré les prophètes. Ils embêtent les prophéties. Ils niaient la résurrection des morts. Parce que peut-être justement, ils étaient en train de pactiser d'une certaine façon avec l'envahisseur et que ça leur donnait mauvaise conscience. Il niait la vie après la mort, il niait l'existence des anges. C'est une forme de rationalisme, on appelle ça le rationalisme. Juste ce que je vois, ce que je comprends, mes sens étant limités, je me limite à mes sens et peu importe, je ne crois pas au reste. peu importe ce que l'on dit, est-ce que le témoignage de la parole de Dieu. Et là, on tombe aujourd'hui, on risque de tomber dans quoi ? Ben, ce qu'on appelle volontiers le libéralisme, hein, de trop retirer de choses la parole de Dieu, ou d'en retirer tout simplement, avec derrière une théologie desséchante. On va couper les cheveux en quatre, on va dire « Oh non, mais ça, non !» Là, ça c'est une légende, mais voyons, ça c'est une belle légende. Ah, mais là, il a un petit peu exagéré, tu sais, bah, quand il a dit qu'il a multiplié les pains, bon, allez, faut comprendre ça sur un plan symbolique. Et puis, voilà, on retire à la parole de Dieu sa puissance. On va pratiquer aussi une foi à minima. On va se contenter du strict minimum pour dire qu'on est encore religieux. On va démythologiser des textes bibliques, tous les textes, il y a tellement de mythes, vous savez. Ah oui, même le diable est un mythe. Encore récemment, je lisais un livre sur la délivrance. Vous prenez derrière ce qu'on appelle classiquement l'exorcisme. Et l'auteur n'a pas retenu ce terme-là. Et lui disait dans son livre, il disait, ben, vous savez, en fait, le diable n'existe pas. Ses anges n'existent pas. Donc, il faut aider la personne qui se croit possédée à comprendre que ça n'existe pas. Ouais, bon, on prend peut-être pas par le bon bout. Bref, donc là, bon, si ça reste juste un symbole, on est loin de la réalité. Donc là, on va tomber dans l'immoralisme, dans la tiédeur, dans cette maladie dite de Laodicée. On s'illusionne et on va tout relativiser. Je ne sais pas ce qui va rester encore de sûr dans la Bible. Vous voyez ? Qu'a dit Dieu à ce propos ? Texte dia suivante. Concernant ce que j'ai dit. Quand Dieu parle, il parle. Moi qui suis dans le ministère couple et famille, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Genèse 2, 24, la définition du mariage, c'est magnifique. Il a prononcé les mots qu'il devait, pas un de plus, pas un de moins. Il a utilisé les mots qu'il fallait utiliser. Il ne s'est pas trompé de mots. C'est magnifique. C'est une phrase en sept parties, c'est une merveille. L'homme quittera son père et sa mère. Il a tout dit. À partir de là, vous pouvez tout développer sur le couple et la famille, ou presque. Quand Dieu dit « Vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien », il sait pourquoi il dit ça. Il ajoute à cette exigence de Deutéronome 12, 32 « Vous observez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. » Tout, ça ne veut pas dire qu'il y en a énormément, mais il y a juste ce qu'il faut, la bonne portion. C'est l'homéostasie, voilà, ce qui permet de rester en vie spirituelle. « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, vous observerez les commandements de l'Éternel tels que je vous les prescris. » C'est Deutéronome 4, 2, c'est parallèle. Hein, « Tels que je vous les prescris. » Ailleurs, dans les Proverbes, « N'ajoute rien ces paroles, n'ajoute rien, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne te sois trouvé menteur. » Et vous avez cette recommandation forte à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, dernier chapitre de la Bible, pour dire à tel point c'est important. Petit rappel au passage, c'est vrai, tu l'as lu deux fois dans le livre du Deutéronome et une fois dans le livre des Proverbes, si tu as lu ta Bible du début jusqu'à la fin. Maintenant tu arrives à l'Apocalypse, je vais te le rappeler. C'est important, vital, essentiel. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. La question est sérieuse. Tu peux tomber malade. Fléau se dit plaie aussi, hein ? Malade spirituellement. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, c'est tout aussi grave. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Dans les deux cas, c'est grave. On l'a vu avec les constantes vitales. Le chrétien doit se situer dans cet équilibre entre le trop et le pas assez. Et un exemple au passage, vous savez, Jésus a délivré un enfant possédé d'un esprit impur. Il l'a délivré, oui. Mais que faisait cet esprit à l'enfant ? L'esprit du mal, l'esprit de l'excès, l'esprit de la démesure, l'esprit de l'extrémisme. Le jetait soit dans le feu, le trop, là on se consume dans le trop, soit dans l'eau pour le faire périr. Le pas assez, en prenant, je ne sais pas, comme point de repère, la chaleur, quoi. C'est deux milieux dans lesquels l'homme ne peut pas vivre. Dans le feu, il ne peut pas vivre. Là, on est consumé par le too much. Dans l'eau, on ne peut pas vivre non plus, on n'y reste pas. Donc, c'est le pas assez. Vous voyez, dans les deux cas, il y a danger de mort imminente. Et là, je m'adresse à vous tous, et en particulier à ceux qui ont été récemment baptisés, le diable est toujours sur nos traces. Et qu'est-ce qu'il cherche? C'est les excès. Dans le trop ou le pas assez? Tu viens d'être baptisé? Ah, ok, ok, ah, non. Déjà, ça m'embête que tu aies fait alliance avec Dieu, parce que Dieu aussi s'est engagé, bon, et tu jouis d'une protection spéciale, tu es bien, bien décidé. Mais alors, Dieu, il va essayer de chercher une faiblesse dans laquelle qu'il va explorer, que ce soit dans le trop ou le pas assez. Et d'où ces recommandations qui reviennent dans la Bible. On va prendre encore quelques versets qui vont dans le même sens. Hein. Ça, c'est dans, vous avez la référence, Proverbe 4. « Considère le chemin par où tu passes, que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. » Cela signifie « écarte-toi du mal ». Dieu a bien balisé la route. Alors cette route, ce n'est pas forcément une route okay, toute droite, dans le sens qu'il n'y en a aucun souci, aucun obstacle. C'est une route qui peut être sinueuse, ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, à droite. Mais il faut rester sur la route. Ça, c'est le chemin de vie. Parfois, on peut parler de route droite, parce qu'elle conduit au ciel. La dia suivante, un autre verset qui dit que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est la suite du verset. C'est-à-dire que vu qu'on reste droit, c'est-à-dire qu'on agit selon sa volonté, et pas qu'on cherche des détours, qu'on adapte les choses à ce qui nous convient. La dia suivante, c'est une parole prophétique et une promesse. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, voici le chemin, marchez-y, car sinon vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Voici le chemin. Voici le chemin. On pense là à un GPS. Image suivante. On pense à un GPS. Voici le chemin. Reste là. Reste. Sinon, tu ne sais pas où ça va te mener. Hein? Reste sur le chemin. Écoute la voix de Dieu. Fais-lui confiance. Il te dit non, là c'est trop à droite. Ne passe pas ici. Reste droit devant. Maintenant, tu tournes à gauche. Ça, c'est le bon chemin. Allez, avance. Tu suis les indications de Dieu. C'est ce qu'a fait Noé. Il a suivi toutes les indications de Dieu et rien que les indications de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Jésus est un très bon guide, un excellent modèle d'équilibre. Et plus on est proche de Christ, plus on, et mieux on l'imite. Mieux aussi on est à l'aise dans différents milieux, mieux on est à l'aise aussi avec soi-même, dans sa relation avec Dieu. Parce que, on garde la parole de Dieu en toutes circonstances et en tout temps, sans craindre quoi que ce soit. C'est un exercice d'équilibre. Et qui est-ce qui vient nous équilibrer? C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit Saint, c'est lui qui nous équilibre. Et si parfois vous avez un doute concernant une pratique, concernant une croyance, allez voir Jésus. Mettez-vous à ses pieds, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'est comporté? Sachant que Jésus reste le Messie, n'est-ce pas? Nous ne serons jamais sauveurs comme il l'a été, mais en tant qu'homme, quel exemple a-t-il donné? En tant que lui-même serviteur de son Dieu. Et là, j'ai l'image, c'est l'image qui me vient, c'est celui du funambule. Vous voyez le funambule, celui qui marche sur une corde tendue avec une énorme perche. D'accord? C'est avec cette perche qui va garder son équilibre. C'est ça la perche que Dieu nous tend à tous pour garder l'équilibre. Parce que la vie, c'est ça. Ça reste difficile, il faut garder l'équilibre pour ne pas tomber à droite ou à gauche. C'est ce que disait Luther en son temps, le diable est toujours là pour nous faire tomber de notre cheval. Parce qu'on va se déplacer à cheval en ce temps-là, donc tomber soit à droite, soit à gauche du cheval. Peu importe, ça c'est le but du diable. Mais nous résistons, nous gardons l'équilibre et c'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui nous font garder cet équilibre. Il y en a même qui vont plus loin, qui n'utilisent plus la perche. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de slackline. La slackline, slack veut dire relâcher. Alors il marche sur une espèce de sangle assez large, lâche, et parfois certains le font en altitude, les highliners, là. Eh bien, bref, pour dire, la vie c'est ça, c'est un exercice d'équilibre. Et comment on y arrive? Comment on y arrive à garder cet équilibre? Eh bien, en regardant droit devant soi, en regardant droit. Ce qui y arrive, de temps en temps, ils jettent un coup d'œil par terre, mais très rarement. Mais vous les voyez toujours, ils regardent devant eux. Ils marchent, non par la vue, parce que ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, mais par, oui, ils suivent des pistes droites, effectivement, et ils marchent par la foi. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire tous, c'est vraiment un appel à marcher par la foi selon ce que Dieu a dit. Que ça vous semble, ce que Dieu a dit, extrême ou pas, ça c'est extrême. Vous voyez, c'est pas à vous d'apprécier, Dieu a parlé. Bien sûr, il nous donne l'intelligence de comprendre ce qu'il a dit, de le replacer dans son contexte, d'en faire une interprétation honnête à partir de tous les textes que nous avons sous la main. Mais en gros, l'équilibre est là. Il y a la vie, c'est ça la vie humaine. La vie avec Dieu, c'est une recherche permanente d'équilibre. Que le Seigneur puisse vous permettre de marcher avec lui, de marcher sur son chemin, de marcher droit. Amen.